pu voir avant de démarrer. Je voudrais encore remercier l'équipe de Louange de nous avoir conduits dans ce temps d'adoration. Et j'ai l'impression que les choses ont été conduites, puisque nous ne sommes pas concertés avec Rebecca pour donner un thème à ce culte, mais voici la première image que j'avais choisie donc, pour démarrer ce culte. Donc on reste sur le thème de l'eau, de la mer, de l'océan. J'ai choisi cette image qui nous montre quelque chose que l'on peut retrouver notamment sur la côte atlantique, sur l'océan, où il y a des endroits qui sont dangereux pour la baignade. Et on retrouve ce genre de panneaux avec des limites de zone baignade surveillée. Donc nous avons des poteaux voilà, qui nous disent « ici, il y a les maîtres nageurs qui surveillent. À côté, c'est dangereux. À côté, si on y va, on risque de se faire emporter par des courants. Il y a des baïnes qui forment des courants, il y a des vagues. » Il peut y avoir même des rochers. Et c'est quelque chose que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune. On allait souvent en vacances dans les Landes. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi rester dans la zone sécurisée? Pourquoi ne pas aller explorer un petit peu à côté? Il y a l'air d'avoir des vagues un peu plus intéressantes. J'avais mon bodyboard, donc je m'amusais dans ces vagues-là. Et je me suis fait prendre au piège, littéralement, par ces courants. Et en fait, sans m'en rendre compte au départ, j'ai commencé à dériver, à m'éloigner en fait, de la zone principale, et à me faire emporter au large, jusqu'à ce que je me retourne à un moment donné, et que je me rende compte que j'étais vraiment très loin de là où on était. Et j'ai eu beau essayer de ramer pour rejoindre le bord, en fait, je n'y arrivais pas. Et la seule solution que j'ai eue, c'est de me laisser aller en fait, par le courant. À force de me débattre, je me suis laissé conduire et en fait ça m'a ramené à la plage mais peut-être 500 mètres plus loin. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Alors mon idée ce matin c'est pas de vous faire réfléchir à la baignade, vous l'aurez bien compris, mais d'y voir un parallèle avec notre vie chrétienne, et c'est ce que on va voir ce matin. Alors est-ce que vous vous rappelez dans quelle série nous sommes en ce moment? 1 Pierre, super, merci. On est dans l'épître de 1 Pierre. Alors cette épître, premièrement, son but, c'était d'encourager les chrétiens dispersés à cause de leur foi. Les chrétiens d'origine juive avaient été chassés de Jérusalem, ils avaient été dispersés en Asie mineure, et donc Pierre, qui est un des 12 apôtres, écrit à ces chrétiens dispersés pour les encourager. La douleur qu'ils vivaient, l'angoisse, la persécution, pouvaient les inciter à renoncer, à rebrousser chemin, à abandonner leur foi. Et donc Pierre, il vient les encourager à persévérer. Et Pierre, il connaît la persécution, lui-même a été frappé, lui-même a été emprisonné. Ses amis ont fui, certains ont été tués, donc il sait de quoi il parle. Et il nous encourage à tenir bon. Et il avait encouragé ses chrétiens à l'époque, et je crois qu'il veut nous encourager aussi, nous, aujourd'hui, parce qu'on vit aussi des épreuves, on vit de la souffrance, on vit une certaine forme de persécution, différente de celle qu'il pouvait vivre à l'époque. Mais en tout cas, cette lettre nous parle aussi aujourd'hui. La deuxième chose que cette épître nous a parlé, donc Pierre, il voulait qu'on imite Christ dans les temps d'épreuve, que l'on puisse prendre exemple sur Jésus, qui est notre modèle d'obéissance. Alors il a parlé du fait de respecter les autorités, il a parlé de la relation entre mari et femme, il a pu parler de la relation aussi d'amour qu'on devait avoir les uns envers les autres. La relation d'amour, de bienveillance, il a aussi parlé d'exercer l'hospitalité. Il a aussi parlé de se mettre au service les uns des autres. Et au verset 7, donc c'est un verset que nous, on avait vu lorsqu'on était à Champfleury, le verset 7 nous disait « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Amen. C'est beau comme promesse, on peut se décharger sur lui de tous nos soucis. Alors j'aurais bien vu la lettre qui s'arrête ici, avec peut-être une conclusion qui dise « Ben voilà, à toi la gloire Seigneur ». Saluez-vous par des saints baisers d'amour, on va le voir à la fin. Mais Pierre, il nous a réservé une petite surprise. Hein. Rebecca nous a teasé un petit peu le thème de ce matin. C'est comme un petit peu dans un film, en fait, on s'attendait à ce que ça se termine comme ça. Et en fait, il y a une dernière étape qui vient dans le film, et en fait, ça chamboule un petit peu la fin du film. Là, c'est pas que ça chamboule, mais ça rajoute encore quelque chose. On se disait, bon, on va vivre des épreuves, on va vivre des souffrances, mais on peut se décharger sur Jésus, mais voici ce que nous dit le texte de ce matin, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Voilà, la petite dernière chose avant de terminer. Ah, un petit détail que j'avais oublié. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et on verra qu'il y a encore 2-3 versets qu'on verra en conclusion. Alors, le thème de mon message de ce matin, c'est résister. Résister face au diable et aussi résister dans le sens de tenir bon dans l'épreuve. Quand on regarde la définition du mot résister, on a ces définitions qui ressortent. Ne pas céder, ne pas être détruit, ne pas être altéré sous l'effet de quelque chose. Et comme thème de mon message, j'aimerais qu'on aborde les points suivants ce matin. Le diable, tout d'abord, on parle du diable. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il peut faire? On va voir ça dans un premier temps. On va voir aussi comment on peut résister, comment on doit résister, qu'est-ce que la parole nous dit de comment faire, qu'est-ce que ça veut dire résister dans la parole de Dieu. Et enfin, on terminera par un processus de formation. On verra que Jésus, il veut nous former, il veut nous apprendre des choses. On est parti ? Tout d'abord, le diable. Alors, qu'est-ce qu'il veut le diable ? Alors, je suis bien conscient qu'on pourrait en parler pendant une journée, voire plusieurs jours. Alors, j'ai essayé de synthétiser des choses, donc ne soyez pas étonnés que ce soit assez simple pour que ça tienne dans 30 minutes. On ne va pas en parler pendant toute la journée. Mais qu'est-ce que le diable, il veut ? À la base, il y a Dieu, il y a l'homme, il y a Dieu qui a créé et l'homme. Il y a une relation d'amour entre Dieu et l'homme, l'homme avec un grand H, les hommes et les femmes. Et qu'est-ce que le diable il veut faire ? Eh bien, il veut détruire cette relation. Il veut nous faire oublier combien Dieu il nous aime. Et on voit que c'est ce qu'il a fait dès Genèse 3. Il a brisé cette relation entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce qu'il veut faire aussi ? C'est qu'il veut détruire la relation entre les hommes et les hommes. Il veut détruire cette relation. Il veut que ce ne soit pas une relation d'amour qu'on ait les uns envers les autres, mais que l'on se monte les uns contre les autres. C'est ça que le diable il veut faire. Et le diable aussi, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut détruire notre relation avec la création. Dieu qui a tout créé, il veut faire en sorte que l'homme n'en ait rien à faire de cette création. Donc le but du diable, en fait, c'est de détruire dans tous ces domaines-là, et en fait de nous conduire à la mort, tout simplement. On voit qu'il a séparé l'homme de Dieu en Genèse, mais que Dieu a créé un chemin pour que l'homme puisse être à nouveau en communion avec Dieu. Ce chemin, c'est Jésus. Amen. Donc Dieu a même si Satan a voulu tout détruire, Dieu a créé un chemin pour que nous soyons réconciliés avec lui. Maintenant que nous savons à peu près qu'est-ce que le diable il veut faire, détruire, qu'est-ce qu'il peut faire ? Et je trouvais que c'était important qu'on se rappelle des vérités sur qu'est-ce que le diable peut faire réellement. Et la première chose qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu, il est au contrôle. Dieu, il règne sur toutes choses, y compris sur le monde spirituel et les démons. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Deuxième chose, c'est qu'il permet à Satan et aux personnes malveillantes de faire le mal. Ça, parfois, ça nous dépasse. Mais Dieu permet à Satan et aux personnes malveillantes de faire le mal. Et il fait même coïncider le mal avec son plan. Quand on prend l'exemple de Judas, il a poussé Judas à trahir Jésus et à le faire tuer. Je voulais vous lire ce verset dans les Actes, Acte 4, versets 27 à 28. On voit que, en fait, il a accompli les prophéties annonçant que Jésus mourrait pour les péchés du monde. Dans Actes 4, versets 27 à 28, voici ce que nous pouvons lire. « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Donc on voit que Jésus, Dieu, ça fait coïncider le mal avec son plan. Judas l'a trahi, mais c'était la volonté de Dieu. Alors on ne vit pas dans un monde avec un bon Dieu et un mauvais Dieu. Satan n'est pas l'opposé de Dieu. Parfois on peut croire ça, que Satan est l'opposé de Dieu. Mais on voit que Dieu il règne sur toute chose, y compris sur le monde spirituel et les démons. Et ça c'est important de se le rappeler ce matin. Et on voit qu'il y a même des exemples dans la Bible où Satan a dû demander la permission. On voit ça dans Job, par exemple, où Satan, il demande à Dieu la permission de pouvoir aller tenter Job. On voit aussi qu'il a demandé la permission pour malmener Pierre et les apôtres. Vous pourrez le lire dans Luc 22, les versets 31 à 32. On voit que Satan demande la permission à Dieu d'aller tenter des personnes, Job, Pierre, les apôtres. Et donc on voit que Dieu, il est tout-puissant. On peut lire des versets dans les psaumes aussi. Le premier qui n'est pas affiché là, le psaume 115, verset 3. « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Ou encore celui-ci, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » Donc voilà, rappelons-nous que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit demander la permission à Dieu. Et c'est Dieu qui est au contrôle. Et ça, il faut qu'on se le rappelle. Deuxième chose, c'est que lorsque Jésus était sur terre, on voit qu'il a chassé de nombreux démons. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus il a chassé des démons dans Matthieu 4, 24, dans Matthieu 8, verset 16. Et on a ce passage dans 1 Jean aussi qui nous dit, 1 Jean 3, 8, « En vérité, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Mais on voit que sa victoire, la victoire de Jésus, elle est devenue absolue et éternelle à la croix. On a par exemple ce verset dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ou encore dans Hébreux 2, 14. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même aussi l'a partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce qu'il faut, la deuxième promesse qu'on doit se rappeler ce matin, c'est que Jésus, il a déjà gagné la bataille. On a Satan et ses démons qui sont des ennemis redoutables, mais en fait, ce sont des ennemis qui sont déjà vaincus. Et ce sont des ennemis qui sont comme un pistolet sans balle à l'intérieur. C'est ça qu'il faut qu'on ait cette image-là, c'est des ennemis qui... Ils nous font croire des choses, ils profèrent des mensonges, ils nous font craindre la persécution, ils nous séduisent en nous faisant croire que le péché nous rendra heureux. Mais on peut être vaincu que si on croit que leur arme, elle est chargée. Mais leur arme, elle est vide, elle est comme un pistolet sans balle à l'intérieur. Donc, rappelons-nous que Jésus, il a déjà gagné la bataille. Et que le diable, il profère des mensonges, il nous fait peur, il croit qu'on est vaincu. Mais rappelons-nous que lorsqu'on est en Jésus-Christ, nous avons déjà gagner la bataille. Et quand on vient à Jésus, on n'a plus à avoir peur des démons, parce que quand on vient à Jésus, on a cette promesse qu'on devient citoyen du ciel. Ça, on le voit dans Philippiens 3, verset 20. On devient citoyen du ciel et on est déjà assis avec Christ au ciel, dans Éphésiens 2, verset 6. Donc, ces promesses qui nous rappellent que nous sommes déjà assis avec Christ au ciel. Donc, premièrement, Dieu, il est au contrôle. Et deuxièmement, Jésus, il a gagné la bataille. Et lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on a cette assurance qu'on est dans le camp des vainqueurs. Ça, c'est une promesse qu'on doit se le proclamer et qu'on peut dire amen à ça. Nous sommes dans le camp des vainqueurs et Jésus a déjà gagné la bataille. Et un jour, il va revenir, il va nous prendre avec lui et nous serons avec lui pour l'éternité. Mais en attendant, le diable, il veut faire du mal. Il sait que nous, nous sommes faibles et donc c'est pour ça qu'on doit résister. Alors, comment nous devons résister ? Le diable, il peut se présenter de différentes façons, sous la forme d'un serpent. Dans la Genèse, on voit qu'il s'est présenté sous la forme d'un serpent, un serpent qui séduit les hommes et qui va les entraîner dans une corruption morale ou qui est un serpent qui est malin, qui va essayer de nous séduire. Il peut aussi se présenter sous la forme d'un ange de lumière pour tromper les hommes dans le domaine spirituel. Il peut se présenter sous ces formes-là. Et puis, il peut aussi se présenter sous la forme d'un lion rugissant. Et ce passage nous parle d'un lion rugissant qui est là pour terroriser le peuple par la persécution. Il essaye de faire peur au peuple de Dieu par la persécution et il essaye de les faire rebrousser chemin, de les faire abandonner la foi. Alors, les lions. Pourquoi cette image du lion ? Est utilisé. Je crois que on voit que les lions, ils attaquent les animaux qui sont malades, qui sont jeunes, qui sont isolés. Ils choisissent des victimes qui sont seules, parfois trop lentes. Et Pierre, là, il veut nous avertir. Il veut nous dire « Méfions-nous de Satan lorsque nous souffrons ou nous subissons la persécution. » Pourquoi ? Parce que c'est dans ces moments-là qu'on est particulièrement vulnérable aux attaques de Satan. Et ça, je le vois beaucoup autour de moi en ce moment, des gens qui sont déjà, qui subissent beaucoup d'épreuves, qui subissent beaucoup de choses, que ce soit des maladies, de la souffrance, la perte d'un travail, des difficultés dans leur couple. Et on voit que le diable, il attaque. Il est là, il attaque, et il en profite. Il voit que ce sont des personnes qui sont déjà vulnérables, et il en profite. Alors, premier point pour résister, c'est qu'on doit se méfier. On doit se méfier quand nous-mêmes, nous souffrons, ou nous subissons la persécution, ou qu'on a autour de nous des gens qui sont dans cette situation. Méfions-nous de Satan, parce qu'il va, saisir toutes les occasions pour nous attaquer. Et dans ma propre vie, dans ma propre expérience, j'ai déjà vécu ça, en fait, le moment où j'étais seul, où je me disais, je vais prendre un peu de distance avec l'Église, avec des chrétiens, je vais essayer de faire ma propre vie. C'est là que ça a été le plus dur et que Satan a attaqué le plus. Alors, comment il fait, Satan ? Satan, il attaque sur plusieurs fronts à la fois. Tout d'abord, il y a le doute. Le diable, il est appelé le malin, donc il va utiliser les circonstances, les faiblesses de chacun pour attaquer. Alors, première chose à laquelle j'ai pensé, ça va être peut-être le doute. Dans Genèse 3, verset 1, Dieu a-t-il vraiment dit ? Vous vous rappelez de cette phrase-là ? C'est ça qu'il a dit à Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez aucun des fruits ? Il fait douter. Et aujourd'hui aussi, il peut te faire douter de l'amour de Dieu. Il peut te faire douter de sa présence, il peut te faire douter de sa fidélité. Mais alors, il peut te mettre ce genre de phrases dans la tête. Pourquoi vis-tu cela si Dieu t'aime ? Si Dieu t'aimait vraiment, alors tu ne serais pas dans cette situation. Satan peut attaquer en te faisant douter de la parole de Dieu. Il peut aussi proférer des mensonges. On voit que Satan est appelé le père du mensonge. Il a dit ensuite, vous ne mourrez pas. Si vous mangez de ce fruit-là, vous ne mourrez pas. Mensonge. Il peut aussi vous dire, je peux vous donner davantage que Dieu. Et pareil, aujourd'hui, il peut te faire croire que tu n'es pas digne d'être aimé, par exemple. Il peut te faire croire que tu n'as aucune valeur aux yeux de Dieu, que tu n'as aucun don, que tu n'en fais pas assez pour lui. Il peut te proférer tous ces mensonges-là pour t'éloigner de lui. Il peut aussi te faire croire que le péché n'est pas si grave, que la société, finalement, elle évolue, que la parole de Dieu, ben voilà, c'était à l'époque, ça. Maintenant, il faut vivre avec son temps. Et donc, le diable, il va aussi te proférer ce genre de mensonges-là. Troisième chose que le diable veut faire, c'est te révolter contre Dieu. Peut-être qu'il veut te dire, eh ben, sois libre. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu restes sous l'emprise d'un Dieu ? Sois donc libre. Et nous vivons vraiment dans une société maintenant, ni Dieu ni maître, où chacun veut faire ce qu'il veut, ne veut plus avoir de contraintes, ne veut plus avoir d'autorité. Et donc Satan cherche aussi à te révolter contre Dieu. Il veut te faire oublier que Dieu veut ton bien aussi. Hein. Il veut te faire croire que la religion, Dieu, c'est quelque chose qui est là pour te donner un cadre et que c'est ce cadre-là qu'il faut respecter. Mais il veut te faire oublier qu'avant tout, Dieu, il t'aime et il veut ton bien. Et il t'aime à tel point qu'il a donné son fils pour toi. Hein. Et peut-être qu'il peut proférer aussi ces paroles, voilà, si Dieu t'aime vraiment, pourquoi cette maladie ? Pourquoi cette relation difficile en ce moment ? Pourquoi ces problèmes qui s'enchaînent ? Alors, à quoi bon rester accroché à ce Dieu-là ? Hein ? Il t'invite à te révolter contre lui. Donc, une quatrième chose qu'il peut faire, c'est te révolter. La discorde. Satan, il veut aussi semer la division. Il veut diviser, il veut proclamer la haine, la dispute, la jalousie. Il veut monter les hommes les uns contre les autres. Et ça, on voit que son plan, il fonctionne bien quand on regarde le monde actuel. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, malheureusement. Et qu'il réussit à monter les hommes les uns contre les autres. Une dernière chose que le diable aussi, il veut faire, c'est te faire peur. Je pense qu'à l'époque où Pierre a écrit cette lettre, ben, les chrétiens avaient peur, clairement, de la persécution, parce qu'ils avaient peur d'être torturés, Ils avaient peur d'être tués, ils avaient peut-être peur qu'on tue leur famille. Et on voit qu'il y a beaucoup de pays en ce moment dans le monde qui vivent ça au quotidien. Quand on lit les témoignages de Portes Ouvertes ou peut-être d'autres personnes que vous connaissez et qui vivent dans ces pays-là, c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose qui est fini. Et donc Dieu, il veut te faire peur. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, il veut te faire peur. Satan, merci. Satan veut te faire peur. Et c'est valable aussi pour nous. Je crois qu'il veut peut-être te faire peur dans le sens où, ben, voilà, si tu affirmes ta foi au travail, qu'est-ce qui va se passer? Si tu affirmes ta foi pour nos enfants, pour nos jeunes, au collège, au lycée, à l'école, eh ben, tu vas être moqué. Peut-être qu'on va même te harceler. Peut-être qu'on va te cracher dessus. Peut-être qu'on va te faire du mal parce que tu es chrétien. Et donc, il veut nous faire peur. Toutes les attaques que Satan peut mener. Alors, on n'a pas encore vu trop comment résister. Je vous ai un petit peu montré comment le diable s'y prend. Et je pense qu'on pourrait rajouter encore beaucoup de points. C'est ceux qui me sont venus en tête ce matin. Mais comment résister? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on doit résister ensemble. Le verset 9 nous dit « Résistez-lui avec une foi inébranlable ». Alors une foi inébranlable, moi ma foi elle n'est pas inébranlable, alors comment on fait? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Oui, alors on le sait, on le voit, comment on peut résister sachant ça? La pensée qui m'est venue à l'esprit c'est qu'on doit résister ensemble. On voit qu'ensemble on est plus fort et qu'un lion il ne va pas attaquer un troupeau qui est en pleine forme. Et donc, ensemble, on peut prendre soin les uns des autres. Et Satan, il veut aussi nous faire croire qu'on est parfois les seuls à vivre telle épreuve, telle ou telle chose, telle persécution. Il va peut-être te faire dire, bah, regarde comme le méchant est prospère. Et on voit qu'il y a des psaumes aussi comme ça dans la Bible, où David, il implore Dieu, il dit, mais regarde comme le méchant, il prospère. Et peut-être qu'autour de nous, on a des gens comme ça. On a l'impression qu'ils n'en ont rien à faire de Dieu, ils n'en ont rien à faire de la Bible, ils n'en ont rien à faire des valeurs de ce monde, et ils prospèrent. Peut-être qu'on a l'impression qu'ils prospèrent du moins, et qu'ils sont heureux. Et ça, c'est le Satan qui essaye aussi de nous mettre ça dans la tête. Il cherche à nous décourager, il cherche à nous faire croire que la vie sans Dieu, c'est mieux. Mais Pierre, ici, veut nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nos frères et sœurs dans le monde vivent la persécution, et pour moi, c'est aussi souvent un encouragement de lire des témoignages de frères et sœurs qui font, par exemple, des kilomètres et des heures de marche pour aller rejoindre des frères et sœurs. Et on oublie parfois quel privilège on a de faire 5, 10, 20 minutes en voiture pour venir ici le matin, alors qu'il y en a qui prennent des risques, il y en a qui font 4 heures de marche pour aller rejoindre des frères et sœurs dans le monde. Et je pense qu'eux prient aussi pour nous. Ils doivent, eux, prier aussi pour nous dans le sens de se dire... Dans quel monde ils vivent en Occident? Dans quel monde ils vivent dans ce monde où ils sont accablés de toutes parts, de sortes de tentations, de matérialisme, de richesse? Alors ensemble, nous devons prier et veiller les uns sur les autres. On le fait déjà. Ça m'encourage de voir que nous pouvons nous partager des sujets de prière quand des membres de notre communauté passe par des moments difficiles, nous pouvons prier les uns pour les autres. Mais on doit aussi veiller, on doit aussi prendre des nouvelles, on doit aussi s'encourager. Et aussi parfois, on doit rattraper un frère ou une sœur qui est en train de se faire emporter par le courant. Et ça, ce n'est pas forcément le plus simple, mais c'est notre rôle de le faire aussi, de veiller les uns sur les autres. De se dire, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ou tiens, c'est bizarre, il s'éloigne de la foi, il s'éloigne de l'Église. Et c'est notre rôle aussi, en tant que chrétien, en tant que famille, de pouvoir aller parler avec amour à ce frère et cette sœur en disant « Attention, là tu es en train de sortir de la zone surveillée. » Et l'image que j'ai eue aussi, c'est qu'on est inondé dans notre société, on est inondé de flux d'informations. On a juste à ouvrir notre smartphone, allumer la télé, regarder les journaux, s'il y en a encore qui font ça. Des journaux papier, mais on est inondé d'informations. Alors je me suis dit, alors il faut que dans ce flux d'informations, on ait au moins une fois par jour un chrétien, un frère ou une sœur à qui on écrit, ou que l'on reçoive aussi un encouragement d'un frère ou d'une sœur, on doit aussi inonder nos frères et nos sœurs d'encouragement pour veiller les uns sur les autres. Donc c'est le petit défi que je nous lance. On est dans une société où on a énormément de choses qui nous arrivent. Et il faut qu'il puisse y avoir des frères et des sœurs qui veillent sur nous et vice-versa. Donc c'est le premier point pour résister ensemble, pour résister ensemble. On doit prier, veiller les uns sur les autres. On n'est pas seul à vivre ça. Mais ce n'est pas tout. Résister, c'est aussi un choix qui est personnel. Alors j'ai pu expérimenter dans ma vie ces deux options. Donc l'option 1, c'est sortir de la zone surveillée, comme je vous le disais tout à l'heure. Je me suis fait avoir une fois, mais au final, c'était vraiment, vraiment le cas. Hein, vraiment dans l'océan, je me suis fait avoir. J'ai essayé de sortir de la zone surveillée. Je me suis fait avoir et heureusement, je m'en suis bien sorti. Mais j'ai aussi, à un moment donné dans ma vie, choisi cette option 1 dans ma vie avec Dieu. Je me suis dit, ben, c'est bon, allez, j'en ai marre des règles, j'en ai marre de l'Église. Je pensais que croire en Dieu, c'était juste respecter des commandements. Et si tu ne rentres pas dans ce cadre, eh ben, ça veut dire que tu es un pécheur et que Dieu ne t'aime pas et que tu n'y arriveras jamais, en fait. Donc j'ai tenté aussi cette option 1, décider de sortir de cette zone surveillée. Et en fait, je me suis retrouvé en proie au courant, aux vagues. Je me suis fait emporter sans forcément m'en rendre compte. Et en fait, on finit par nager contre le courant, à lutter contre un péché sans arriver à s'en débarrasser. Et au final, je me suis rendu compte que cette liberté que j'espérais trouver en sortant de cette zone surveillée, eh bien, c'était en réalité un piège et que c'était finalement la liberté se trouvait finalement dans l'option 2 qu'on va voir juste après, c'est-à-dire dans le cadre que Dieu nous donne, dans l'amour que Dieu veut nous donner. Et que en fait, cette liberté que Satan nous promet, eh ben, en fait, on va devenir l'esclave du péché, on va tomber dans une vie qui n'a plus vraiment de sens. Alors l'option 2 que Dieu nous propose, c'est de rester dans la zone surveillée. Alors, c'est une image, bien sûr, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Dans cette zone, ça veut dire que je ne suis pas seul. En général, dans cette zone-là, il y a d'autres personnes. Il y a les autres baigneurs qui sont là. Dans cette zone, je sais qu'il n'y a pas de courant qui peut m'emporter. Je suis sous la surveillance des maîtres nageurs. Et si j'ai un problème, on va venir me chercher. Et cette zone-là, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas se rassembler ici ce matin. Cette zone-là, c'est de se soumettre à Dieu et de rester sous l'autorité du berger. Rester dans la zone surveillée, ça ne veut pas dire fréquenter une église tous les dimanches, ça ne veut pas dire prier, ça ne veut pas dire lire la Bible, mais ça veut dire, à un moment donné, je me soumets à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre à Dieu ? Ça veut dire reconnaître qu'il est souverain, ça veut dire avoir foi en lui, malgré les circonstances, ça veut dire obéir à sa parole, et ça veut dire aussi que je proclame que Jésus a déjà gagné le combat à la croix. Et ça veut dire que lorsque le diable va essayer de m'attaquer, eh ben je pourrais lui résister parce que je suis sous l'autorité du berger et que c'est lui qui a déjà gagné la bataille. Et ça veut dire que je pourrais aussi citer la parole de Dieu et répondre avec foi, comme Jésus, quand il a été tenté par Satan dans le désert, il a pu juste répondre en citant la parole de Dieu. Et c'est cette image que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Comment résister ? C'est pas par nos propres forces, c'est pas par tes propres forces en essayant de ne plus faire ci, de ne plus faire ça, de ne plus tomber dans tel péché, de ne plus d'essayer de mieux faire. Mais c'est simplement rester sous l'autorité du berger qui, lui, prend soin de toi et qui, lui, a donné ta vie pour toi et qui te protège des attaques de Satan. Et ça veut dire que quand Satan va essayer de t'attaquer, tu pourras prendre position et te dire non, Jésus a déjà gagné la bataille. Et je n'accepte pas que tu dis ça. Je n'accepte pas que tu prennes le pouvoir sur moi. Je suis sous l'autorité du berger. Et donc ce verset dans Jacques 4, verset 7, nous dit ça. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et il ne faut pas oublier cette première partie très importante de se soumettre à Dieu, de ne pas chercher à résister au diable par nos propres forces, parce que là, le combat, il est perdu d'avance. Mais si on se soumet à Dieu, qu'on reste sous l'autorité du berger, alors on va être protégé et on va pouvoir résister au diable, et on va voir que le diable, il va même fuir l'un de nous parce qu'il aura peur, parce qu'il sait qu'il a déjà perdu. Et ce qui peut se passer, c'est que, comme il a pu le faire pour moi à un moment donné, c'est que Satan, il va essayer de faire croire que tu es prisonnier, tu es un peu... Si tu choisis de rester sous l'autorité d'un berger, ça veut dire que bah, tu vas être un peu enfermé dans cet enclos. Il va te faire croire que tu es prisonnier, que tu n'es pas vraiment libre. Il va te proférer ses mensonges également. Et ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que tout à l'heure, on a parlé de ces choses que Satan essaye de nous faire croire. Et lorsque l'on se met sous la protection du berger, ça veut dire que quand Satan il va nous proférer des mensonges, alors on pourra proclamer la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu, on pourra proclamer que Dieu, il m'aime, il veut mon bien, et on pourra dire à Satan, non, je ne crois pas à ces mensonges que tu veux me dire, je ne veux pas croire que je ne vaux rien, je ne veux pas croire que je n'ai pas de valeur aux yeux de Dieu, je ne veux pas croire que je n'ai aucun don, que je ne peux rien faire pour toi. On peut aussi, au lieu de la peur, avoir confiance en Dieu. Lorsque Satan il va nous faire peur, nous faire craindre la persécution, eh ben, on va pouvoir avoir confiance en Dieu. On va savoir qu'il est toujours là, qu'il va prendre soin de nous. Au lieu du doute, on peut aussi avoir foi en Dieu. Hein. Au lieu de la discorde, on va pouvoir rechercher l'amour, l'amour de notre prochain. On va pouvoir vivre dans l'amour les uns pour les autres et ne pas chercher à vivre dans la discorde comme Satan aimerait que l'on le fasse. Et enfin, la révolte. Plutôt que de nous révolter contre Dieu, alors on va pouvoir vivre dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à Dieu, sous l'autorité du berger qui n'est pas comme un fardeau, mais qui est comme un joug doux et léger, comme dit la parole de Dieu. Et on va voir que quand on décide d'être sous l'autorité du berger, eh ben, on découvre la vraie liberté et on est protégé des attaques de Satan. Et je vous invite aussi à lire, on n'aura pas le temps ce matin de le faire, dans Éphésiens 6, versets 10 à 20. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on voit dans ces versets dans Éphésiens 6 ? Les armes, exactement. Les armes du chrétien. L'armure du chrétien. Et je vous invite à lire ces versets qui vont compléter ce passage de 1 Pierre, où on voit qu'on est invité à revêtir les armes de Dieu et on n'est pas... Et donc, voilà, prenez le temps dans les jours qui viennent, si vous le souhaitez, de creuser ce passage qui vont compléter ce que nous dit aussi ce passage dans 1 Pierre ce matin. La troisième partie de ce passage, c'était que on est dans un processus de formation. Avant de voir un petit peu l'étape de formation, Pierre il nous rappelle des vérités fondamentales. Il nous dit au verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. » Le Dieu de toute grâce. Ça nous rappelle que les façons d'agir de Dieu avec nous ne sont pas fondées sur nos mérites, mais seulement sur ses pensées d'amour à notre égard. C'est ça la grâce, c'est un cadeau qu'il nous fait. Dieu ne nous aime pas en fonction de ce que l'on fait ou l'on ne fait pas, mais en fonction simplement de son amour pour nous à notre égard. Et c'est ce rappel, le Dieu de toute grâce vous a appelé. Et il nous a appelé à quoi ? À sa gloire éternelle. Alors on peut penser que parfois que notre épreuve, elle finira jamais, mais Pierre, il ouvre une perspective plus large. Il nous dit, face à l'éternité, notre souffrance, elle ne dure qu'un peu de temps. Alors parfois, quand on est dedans, hein, c'est pas facile de se rappeler ça, de vivre ça. Mais Pierre, il veut qu'on se tourne vers l'éternité, vers cette gloire éternelle que Jésus nous promet, que Dieu nous promet. Face à l'éternité, notre souffrance, elle ne dure qu'un peu de temps. Alors, il y en a certains qui seront fortifiés, qui seront délivrés sur cette terre, d'autres qui ne seront que au travers de la mort et qui, quand on sera au ciel avec lui. Ça, c'est malheureusement la volonté de Dieu. Il faut qu'on l'accepte. Que la souffrance, elle peut durer sur cette terre. Parfois, on va être délivré, parfois non. Mais nous avons cette assurance d'une vie éternelle avec Christ. Dans Apocalypse 21, verset 4, la parole de Dieu nous dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Voilà, que l'on puisse tenir bon grâce à cette promesse que Dieu nous fait. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et donc, comme je vous le disais, il y a un processus de formation que Dieu met en place. La suite de ce verset 10 nous dit « Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu se sert de la souffrance pour former notre caractère. Ça, c'est parfois dur à accepter, à comprendre. Parfois, on le comprend des semaines plus tard, des années plus tard, quand on a traversé quelque chose de difficile, quand on est sorti d'une épreuve et qu'on regarde en arrière, on se dit « Bah oui, bah Dieu, il voulait m'apprendre ça. Il voulait former notre caractère. » La première chose qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous perfectionner. Les épreuves, elles qualifient le chrétien. Il veut qu'on acquiert les éléments qui manquent dans notre personnalité pour qu'on devienne mûr spirituellement. Il est en train de nous dire bah, « C'est bien ce que tu fais, mais je veux t'amener plus loin. Je veux te perfectionner. » Moi, j'ai l'habitude de donner des formations dans mon travail. Et les techniques de formation, bah, c'est de faire galérer un peu les gens quand même. Hein. Ce n'est pas juste dérouler des slides, des diapos à un écran, mais c'est de les faire travailler. Donc, pendant un moment donné, je leur dis des choses. Et puis, à un moment donné, tac, je leur dis « Allez, maintenant, c'est à vous. » Et là, et souvent, c'est un peu la panique. Ils prennent l'ordinateur, ils essayent de faire. Et je les laisse galérer un peu, je les laisse chercher, je les laisse échouer. En fait, des fois, ils font quelque chose et ça ne marche pas. Ils me disent « Ah, on a fait tout bien et pourtant, ça ne marche pas. » Et je crois que Dieu, il veut faire pareil avec nous. Il nous aime et il veut nous faire passer par des moments où on vit des épreuves, où on a besoin de galérer un peu et où on va vivre certaines choses qui sont dures, mais c'est pour nous qualifier, nous perfectionner. La deuxième étape, c'est qu'il veut nous affermir. Il veut nous rendre plus stables, il veut rendre les chrétiens plus stables, capables de rendre un bon témoignage, capables de supporter les épreuves, capables de supporter la persécution, capables de supporter la souffrance. Il veut nous affermir. Il veut aussi nous fortifier. On voit que Satan, il emploie la persécution pour affaiblir, pour lasser les croyants. Mais en fait, elle a l'effet inverse, la persécution. Elle fortifie et elle permet aux croyants de mieux supporter les épreuves. La dernière étape de ce processus de formation qu'on peut voir dans ce verset, c'est qu'il veut nous rendre inébranlables. Quelle promesse que l'on puisse devenir inébranlable. Dieu, il veut que chaque croyant il soit établi sur un fondement sûr et solide. C'est sur son Fils, c'est sur sa parole. Et malheureusement, l'humain est fait que, il n'y a que quand on va traverser des moments difficiles qu'on va vraiment chercher à s'accrocher sur quelque chose de sûr et solide, qui est Jésus-Christ, son œuvre à la croix, sa mort, sa résurrection, et la parole de Dieu. Et il ne faut pas oublier que du coup, lorsqu'on traverse des épreuves difficiles, c'est Dieu qui permet cela, c'est Dieu qui est au contrôle, et c'est Dieu qui veut nous former, il veut nous rendre matures, il veut nous rendre forts, il veut nous rendre inébranlables. Et il y a une citation d'un théologien qui s'appelle Lassé, qui nous dit « La souffrance inhérente à la vie chrétienne entraîne toujours les mêmes conséquences bénies dans la personnalité des croyants. Elle purifie leur foi et affine leur caractère. Elle l'affermit, fortifie et rend inébranlable le peuple de Dieu. » Alors, pour conclure, on a encore ces quelques versets, les versets 12 à 14, où on est dans les derniers versets de cette première épître de Pierre. Verset 12, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Dans la fournaise de la persécution, les chrétiens ils pouvaient se demander s'ils avaient eu raison de faire ce choix-là. Et Pierre veut leur rappeler que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Pierre leur confirme que oui, Vous êtes attaché à la véritable grâce de Dieu, vous avez découvert la vérité et vous devez vous y attacher. Et il conclut en leur disant, oui, c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attaché. Et c'est aussi ce message que Pierre veut nous dire ce matin, que Dieu veut te dire ce matin, c'est bien à la véritable grâce de Dieu que tu es attaché. Il faut que tu t'accroches. Alors pour résumer, et pour nous envoyer cette semaine avec ce qu'on a pu voir ce matin et que l'on puisse s'accrocher à ça, c'est que Dieu, premièrement, Dieu, il est au contrôle et que Jésus, il a déjà gagné le combat. Je vous encourage à relire ces versets qu'on a pu lire ce matin, que Jésus, il a déjà gagné la bataille, il a triomphé sur les puissances, les dominations, et il a écrasé l'ennemi à la croix par sa mort, par sa résurrection, par sa vie, il a gagné sur la mort. Et que l'on puisse vraiment s'accrocher à ça, et que l'on puisse proclamer ces vérités quand le diable essaie de nous détruire, de nous casser, de nous rabaisser. Comment résister ? Ensemble. Nous devons d'abord résister ensemble, nous devons prier les uns pour les autres, veiller les uns sur les autres, et nous devons chacun, nous-mêmes, faire un choix personnel à un moment donné de se placer ou non sous l'autorité du berger. C'est une étape importante pour chacun d'entre nous, et de se dire, dans tout ce que je fais, dans ma semaine, est-ce que je suis sous l'autorité du berger ou non ? Est-ce que je décide de lui confier les rênes de ma vie ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles je ne veux pas, que je ne veux pas qu'il regarde, sur lesquelles il n'a pas encore autorité, que l'on puisse vraiment nous placer sous l'autorité du berger dans tous les domaines de notre vie ? On va voir que c'est ça qui nous protège des attaques du diable. Et on peut prendre position et dire non, j'ai confié ma vie à Jésus, je suis assis avec lui dans les lieux célestes et tu ne peux pas dire des mensonges comme ça sur moi, tu ne peux pas me faire douter. Jésus a déjà gagné le combat. Et enfin, se rappeler que Dieu se sert de la souffrance pour former notre caractère. Et on doit accepter ça, on doit accepter qu'on est encore en cheminement et qu'il veut nous perfectionner, c'est pour notre bien. Il veut que l'on soit affermi, que l'on soit stable et qu'on s'accroche sur de solides fondations. Voilà, que nous puissions vraiment nous accrocher à ces vérités cette semaine. Je vais prier, puis ensuite je laisserai la parole à Michael qui va nous conduire dans un temps de scène. On va pouvoir prolonger ce temps de célébration par la scène encore. Père Céleste, je veux te dire merci pour ta parole ce matin qui nous enseigne, qui nous reprend, qui nous rappelle aussi ô combien tu es un Dieu d'amour qui a donné ton Fils pour nous réconcilier avec toi, qui a ouvert ce chemin pour que nous puissions être en communion à nouveau avec toi. Nous voulons proclamer que Jésus, tu as gagné sur la mort à la croix, tu es ressuscité, tu es vivant. Tu es assis à la droite de Dieu et nous sommes déjà assis avec toi dans les lieux célestes. Nous voulons proclamer cette vérité ce matin et te dire merci pour cela. Et nous voulons te demander ton aide parce qu'on sait qu'on a encore des épreuves qui vont arriver. On va encore avoir des difficultés, mais on veut s'accrocher à toi. On veut vraiment s'accrocher à toi, résister au diable aussi, à ce lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Que l'on puisse veiller les uns sur les autres. Et on veut aussi accepter que tu es là pour nous apprendre des choses, pour nous former, et qu'on puisse se laisser modeler par toi, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.